Ils sont où les interprètes?
Elles sont au fond de la salle. Elles sont là. Français, anglais. Tu peux parler français.
Comment ça se marche,
ça? Oui. Bom dia, senhores deputados. Dou as boas-vindas ao Sr. Michel Barnier, negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, num momento importante deste processo de negociação do acordo do Reino Unido com a União Europeia para a saída da União. Temos pouco tempo, por isso vamos tentar ser todos rigorosos na gestão do tempo. Dou desde já as boas-vindas a Michel Barnier, é a segunda vez que está connosco para nos dar conta do processo do Brexit, por isso agradecemos muito a presença e a disponibilidade que tem mostrado em relação à Assembleia da República para nos pôr a par de viva voz e diretamente da sua intervenção e da sua negociação como elemento fundamental para este complexo processo de saída de um membro da União Europeia. Cumprimento também a delegação que o acompanha, cumprimento também Sofia Alves, a diretora do Gabinete da Comissão Europeia em Lisboa. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Negociador-Chefe, sem antes dizer que temos connosco também em reunião conjunta a Comissão dos Negócios Estrangeiros e co-presida esta reunião o colega Carlos Gonçalves como vice-presidente da Comissão. Tem a palavra Michel Barnier. Muito obrigada mais uma vez.
Graças aos intérpretes que estão aqui, eu vou ter a possibilidade de me exprimir na minha língua maternelle. Et je vous en remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette nouvelle rencontre avec vous est très importante pour moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette négociation que je conduis au nom de l'Union européenne depuis 18 mois, j'ai toujours pensé et je continue à penser qu'elle doit être transparente, qu'elle ne peut pas être secrète, et que les parlements nationaux, ici et dans les 26 autres capitales, doivent être tout au long du processus engagés, informés et écoutés. Et ce processus est compliqué, mais il n'est pas terminé. Si nous parlons non seulement de l'accord de retrait, de l'organisation d'un retrait ordonné que nous souhaitons avec le Royaume-Uni, puisqu'il a décidé de quitter l'Union, mais aussi, au-delà de cet premier accord sur le retrait ordonné, de ce qui est à mes yeux beaucoup plus important, pour le Portugal et pour les autres pays de l'Union, et pour le Royaume-Uni évidemment, qui est de construire, et c'est une deuxième négociation, une relation et un partenariat durable et ambitieux avec le Royaume-Uni dans tous les domaines. Et sur ce deuxième négociation, je rappelle que pour la plupart des sujets, il y aura l'exigence d'une ratification nationale dans les 27 pays de l'Union à l'unanimité. Et donc, je pense que pour cette raison, d'abord, il est normal que les parlements nationaux soient informés. Puis moi-même, j'ai été pendant 20 ans député et sénateur dans mon pays et je garde beaucoup de respect pour les parlements nationaux. Nous sommes dans un moment grave. Deux jours après le vote qui est intervenu à la Chambre des communes sur le projet de traité, sur le retrait ordonné que nous avions agréé avec le gouvernement britannique et la Première ministre. C'est un vote de rejet extrêmement clair qui traduit une conjonction de positions, quand on écoute bien ce qui se dit dans le débat britannique, de nature et de sensibilité différentes. En d'autres termes, ce vote très large négatif conjugue des positions très différentes, parfois contradictoires. C'est donc une majorité négative contre le traité. C'est maintenant au gouvernement britannique de nous dire comment il envisage les choses, puisque, encore une fois, ce projet de traité qui est ici, ce sont 600 pages, un vrai traité qui apporte de la sécurité juridique partout où le Brexit crée de l'insécurité. Ce traité a été agréé, négocié de manière objective avec le Royaume-Uni, pas contre le Royaume-Uni, avec lui. Et c'est un préalable. Pour négocier la future relation avec le Royaume-Uni en confiance, et pour pouvoir négocier avec le Royaume-Uni qui veut devenir un pays tiers, il faut préalablement que nous ayons un agrément, un accord sur ce traité. Donc nous attendons comment Theresa May, qui a été confirmée hier soir dans sa fonction de Premier ministre, envisage les choses, et nous attendons de voir comment et dans quelle direction évoluera le dialogue qu'elle souhaite créer avec toutes les forces politiques du Royaume-Uni. Je dis que c'est un moment grave parce que ce projet de traité, qui est un préalable, reste pour nous le meilleur possible. Nous avons travaillé pendant 18 mois et j'ai animé une équipe en votre nom, au nom des 27 États membres, en coopération avec le Parlement européen, avec les 27 gouvernements, dont le vôtre, qui a été extrêmement actif, notamment sur certains sujets qu'il avait identifiés dès le début, comme les priorités du Portugal, la protection des droits des citoyens et la sécurité des financements européens dans le budget. Nous avons travaillé avec tous nos partenaires de manière objective et avec le Royaume-Uni pour aboutir à un accord qui organise de manière ordonnée le retrait du Royaume-Uni. Et donc je voudrais, si vous me permettez, puisque je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer depuis l'accord qui a été obtenu avec Madame May au mois de novembre, vous redire quelques mots de ce traité, hein, qui reste sur la table. Et d'abord, vous rappeler quel est le processus. Nous avons en fait deux lignes de négociation. En jaune, sur le traité lui-même, qui est maintenant terminé depuis le mois de novembre, le Conseil européen et le Parlement qui a approuvé ce texte. Et puis, en vert, une deuxième ligne de négociation que nous avons commencée sur la relation future et qui se traduit toujours en novembre dans un document de 26 pages. Je reconnais, plus facile à lire que le traité, qui décrit le cadre assez précisément de ce que nous souhaitons, les Britanniques et nous, pour la future relation. Et ce cadre est assez ambitieux. Et normalement, il faut que le projet de traité ait à côté de lui cette déclaration, qui fait partie du même paquet, soit approuvée des deux côtés, de notre côté par le Parlement européen, qui est prêt, et le processus a commencé, et du côté britannique, avec la situation que vous savez. Si nous trouvons un accord avec le Parlement britannique, si le Parlement britannique ratifie ce texte dans les semaines qui viennent, alors nous pourrons commencer la négociation sur la future relation immédiatement. Je reviens au projet de traité qui a consisté pour nous à mettre de la sécurité juridique partout, dans tous les domaines où le Brexit a créé de l'insécurité. Le Brexit, c'est comme un divorce. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Et donc, nous avons cherché, avec les Britanniques, à remettre de la sécurité. Et nous sommes parvenus à un accord sur tous les sujets, à commencer par notre priorité, qui était celle des citoyens. Et votre pays a été très actif sur ce point, votre gouvernement. Il y a 350 000, 400 000 citoyens portugais qui vivent et travaillent au Royaume-Uni. Il y a un peu moins de 30 000 citoyens britanniques qui vivent, travaillent ou sont en retraite ici au Portugal. Nous avons obtenu, avec les Britanniques, que les droits de toutes ces personnes, 4,5 millions de personnes, 4,5 millions de personnes au total, soient sécurisés, les droits de sociaux, les droits de résidence, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Tous les droits qui auront été acquis jusqu'à la fin de l'année 2020. Après, c'est une autre question. Des jeunes Portugais qui iraient à Londres en 2022 ou 2023 seront soumis à la nouvelle politique d'immigration du Royaume-Uni que je ne connais pas dans le détail. Mais tous les droits acquis avant 2020 seront garantis si le traité est ratifié. Deuxième point qui intéresse votre pays aussi et tous les autres, c'est la question de ce qu'on appelle « financial settlement ». Je rappelle que le budget européen est établi sur 7 ans, 2014-2020, et qu'au début de la période, en 2014, tous les gouvernements, les 28 gouvernements, se sont accordés pour les politiques et les budgets pour ces politiques. Et les Britanniques ont accepté, comme contributeurs nets, de payer pour l'ensemble des politiques, des budgets, à peu près 12 à 14% de tout. Et donc notre demande a été très simple et objective, c'était que tout ce qui a été décidé à 28 au début soit payé à 28 jusqu'à la fin. Et c'est ça l'accord qui a été fait. Troisième point d'accord, la transition, qui a été demandée par Theresa May, une période d'adaptation et de préparation pendant laquelle le Royaume-Uni quittera, comme il le souhaite, les institutions le 30 mars, c'est lui qui a choisi la date, mais restera pendant 21 mois dans une situation de statu quo économique et politique et social. Il restera dans le marché unique, il restera dans l'union douanière, il participera avec les droits et les obligations à toutes les politiques européennes, et notamment les politiques agricoles ou les fonds structurels. C'est aussi une période pour les entreprises et l'administration de se préparer, notamment du côté britannique, et c'est aussi une période nécessaire pour nous tous, les deux parties, pour négocier la future relation. Il y a eu plein d'autres sujets d'incertitude, d'insécurité que nous avons traités. J'en prends un parce que votre pays est un grand pays agricole et viticole. C'est la question des indications géographiques. Nous avons en Europe 3 000 protections de vin, de fromage, de porto, produits agricoles traditionnels, protégés à 28 contre la contrefaçon venant d'autres régions, d'autres pays du monde. Et donc nous avons négocié durement pour que toutes ces garanties, ces droits de propriété intellectuelle soient préservés à l'avenir. C'est la même chose pour les marques industrielles, ce qu'on appelle les trademarks, 1 million de marques protégées à 28, qui sont protégées à notre agence d'Alicante. Voilà. Et puis Euratom, et puis vous savez, j'ai dit devant vous la dernière fois que je suis venu que c'était une négociation très complexe avec énormément de conséquences. En quittant l'Union européenne, les Britanniques quittent 750 accords internationaux. 750 accords internationaux qu'ils vont devoir renégocier avec des pays commerciaux et des partenaires extérieurs. Mais pour autant, nous devons organiser, nous, notre relation avec eux. Voilà. Et puis, il reste la question grave et très particulière de l'Irlande, dont je vous avais parlé. En Irlande, vous avez une île et deux pays. Au sud, la République d'Irlande, qui est très attachée à l'Union européenne et au marché unique, dont elle fait partie, et au nord, une partie du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, qui quitte le marché unique et l'union douanière. Pour des raisons historiques liées au conflit et entre les communautés, notamment en Irlande du Nord, depuis 20 ans, à travers un document qu'on appelle le Good Friday Agreement, on a rétabli la stabilité, la paix et le dialogue. Et l'Europe a accompagné ce travail de stabilité et de paix en apportant de l'argent grâce aux droits européens et des politiques européennes. Il y a, entre les communautés en Irlande du Nord, de part et d'autre de ce qui n'est plus une frontière, il y a 140 coopérations. Et c'est une situation humaine d'abord, très sensible, très sensible. Il n'est pas question de reconstruire une frontière. Et donc, le problème que nous avons, c'est que tous les produits qui rentreront à l'avenir, après le Brexit, en Irlande du Nord, ils ne rentrent pas seulement en Irlande du Nord. Ces produits, ils rentrent dans le marché unique, puisqu'il n'y a pas de frontière. Tout produit qui rentre en Irlande du Nord rentre dans le marché unique, dans votre marché à vous, portugais ou français ou allemand, puisque l'Irlande, l'île d'Irlande fait partie du marché unique. Et donc nous avons l'obligation de faire des contrôles sur les produits qui rentrent dans le marché unique, partout, à la frontière portugaise, finlandaise, grecque, polonaise, nous faisons des contrôles sur tous les produits qui rentrent dans le marché unique. Je vais vous montrer la liste de ces contrôles. Voilà, ça c'est la liste de tous les contrôles que nous faisons sous trois chapitres. La sécurité sanitaire, les animaux vivants, les produits animaux pour prévenir des crises de santé animale. Et j'ai été ministre de l'Agriculture française et nous savons le risque qui s'attache à ces maladies animales. Deuxième type de contrôle, les contrôles d'ordre financier, fiscaux, pour la TVA ou les droits de douane. Troisième type de contrôle, la régularité des produits, pour vérifier que ces produits sont conformes aux règles et aux normes européennes pour les consommateurs. Tout ça consiste à protéger les consommateurs européens, ici, du Portugal et d'ailleurs, et les entreprises, notamment contre la contrefaçon. Donc le problème, c'est que nous devons trouver le moyen, s'il n'y a pas de frontières terrestres, de faire des contrôles. Donc ce que nous avons finalement fait avec le Royaume-Uni, c'est de trouver une solution qui consiste à dire, dans le cadre de la future relation, nous allons tout faire pour que cette future relation permette de régler cette question. Mais si nous n'y arrivons pas, ou pas aussi vite qu'on le souhaite, alors il nous faut une garantie, ce que nous avons appelé le backstop, c'est une assurance, comme vous avez dans votre maison une assurance en cas d'accident, pour garantir pendant le temps nécessaire qu'il n'y aura toujours pas de frontières en Irlande. Et ce backstop consiste, en accord avec le Royaume-Uni, pendant ce temps, à ce que tout le Royaume-Uni soit dans un territoire douanier commun avec l'Union européenne. C'est un backstop temporaire, mais qui sera utilisé aussi longtemps que nécessaire, tant que nous n'avons pas trouvé, à travers notre relation future, une solution pour qu'il n'y ait pas de frontières. Voilà. Et c'est un des points de fixation, parce qu'évidemment, être dans un territoire douanier avec nous, ça veut dire que le Royaume-Uni, pendant ce temps-là, ferait partie de la politique commerciale européenne, ce qui est contraire à l'opinion d'un certain nombre de ceux qui ont fait la campagne du Brexit. Voilà. Voilà l'essentiel de l'accord. C'est un accord équilibré, respectueux, mesdames et messieurs les députés, respectueux de la volonté britannique de quitter l'Union européenne et des lignes rouges que le Royaume-Uni a lui-même posées par les discours de Theresa May, en disant qu'il souhaitait quitter l'Union, quitter le marché unique, quitter l'Union douanière. C'est le Royaume-Uni qui nous dit cela. Je voudrais en venir à ce qui me paraît moi le plus important, si nous trouvons comment ratifier ce texte, c'est la future relation. Je vais être très rapide et je vais vous écouter. Nous avons bâti notre proposition avec les Britanniques sur 4 chapitres. Un chapitre économique, je vais y revenir. Un chapitre de coopération sectorielle, assez ambitieux. Nous devons coopérer avec les Britanniques pour la recherche, pour les universités, pour Erasmus, pour l'aviation, pour les transports, pour la pêche, évidemment. C'est un sujet que je connais assez bien et qui est très, très, très sensible. Donc nous sommes prêts, avec le nouveau pays tiers que sera le Royaume-Uni, à coopérer, comme nous le faisons d'ailleurs avec d'autres pays tiers, comme la Norvège ou la Suisse ou Israël, s'agissant de la recherche. Le troisième chapitre, c'est celui de la coopération judiciaire et policière, qui est très importante, le mandat d'arrêt européen et d'autres sujets. Et le quatrième chapitre, qui est également important, et votre pays y est attentif, le président de la République et le Premier ministre me l'ont dit souvent, c'est celui de la sécurité extérieure, de la stabilité de l'Europe et de la politique étrangère ou de la coopération avec les pays d'Afrique notamment. Et nous sommes sur tous ces sujets. Nous avons trouvé un accord avec les Britanniques, un accord de base qui permettra de débuter une dizaine de négociations parallèles pour aboutir fin 2020, ou un peu plus tard s'il faut plus de temps, à un partenariat. Je veux dire, mesdames et messieurs, que si nous faisons tout cela, il n'y a pas un autre pays dans le monde avec lequel nous aurons établi un partenariat aussi ambitieux. Pas un seul. Je reviens au premier chapitre qui est sur lequel il y a le plus de critiques quelquefois, qui est la partie de l'économie. Là, j'ai, dans cette slide que je vous avais peut-être déjà montrée, expliqué avec les drapeaux les différents types de partenariats que nous avons avec des pays tiers. Du plus intégré au moins intégré. Ce tableau montre qu'une chose qui est très importante, c'est que la meilleure relation avec l'Union européenne restera en toute hypothèse d'être membre de l'Union européenne. La meilleure relation avec l'Union européenne restera d'être membre de l'Union. Si on veut quitter ou si on n'est pas dans l'Union, ça ne peut pas être la même chose que d'être dedans. Où on a des droits, des possibilités, des opportunités, aussi des obligations. Le second best, la deuxième marche, c'est le modèle norvégien, qui est possible. Et on connaît les règles. La Norvège a un marché qui est membre d'un autre marché. Il respecte les règles du marché unique, toutes les règles. Ils ne participent pas aux décisions, mais ils respectent les règles. Ils apportent une contribution au budget européen. Ils acceptent un rôle pour la Cour de justice. Et ils acceptent la liberté de circulation des personnes. Et en dessous de ce modèle norvégien, j'ai mis tout ce que le Royaume-Uni a comme ligne rouge. Je peux vous faire donner ces flyers, si vous le souhaitez, hein, pour vous. Hein. Je vous les ferai envoyer, si vous le voulez. Hein. Les lignes rouges britanniques, ce sont les lignes rouges du Royaume-Uni, ce ne sont pas les nôtres. Et avec ces lignes rouges, ils ferment les portes eux-mêmes. Mais si les lignes rouges bougent, je l'ai dit devant le Parlement en séance plénière hier matin, si les lignes rouges britanniques bougent, nous bougerons immédiatement. Si le Royaume-Uni veut être plus ambitieux qu'un simple accord de libre-échange sur lequel nous sommes d'accord avec eux. S'ils veulent faire plus, nous sommes prêts. Voilà. Et pour l'instant, à cause de leur ligne rouge, nous sommes à la dernière marche, qui est celle d'un free trade agreement ambitieux, nos tarifs, nos quotas, mais simplement un free trade agreement, comme nous l'avons établi avec le Canada, avec la Corée du Sud ou avec récemment le Japon. Ce n'est pas négligeable, c'est une relation économique importante, mais ça n'a pas la même intensité que d'être dans une union douanière ou que d'être dans le marché unique. Voilà. Mais tous ces modèles sont disponibles, avec chacun leur équilibre de droits et d'obligations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Au moment où je vous parle, nous sommes attentifs au dialogue que Theresa May veut nouer avec les différentes forces politiques britanniques pour créer les conditions de la ratification de ce traité. Et nous sommes ouverts pour faciliter ce dialogue et respectueux. Nous resterons respectueux de la souveraineté et du débat britannique parlementaire. Mais nous avons fait le travail de notre côté avec objectivité. Je veux le dire en passant, je regrette profondément le Brexit. Personne jusqu'à maintenant n'a été capable de me démontrer la valeur ajoutée du Brexit. Personne. Pas même M. Farage, que j'ai reçu à sa demande. C'était un entretien très stimulant. Hein. Mais jamais je n'ai été convaincu. Le Brexit, c'est lose-lose. C'est une négociation négative dans laquelle nous avons cherché à dire que nous respectons la volonté britannique, que nous respectons leur ligne rouge, comme ils doivent respecter les principes de l'Union européenne qu'ils connaissent bien, et notamment les principes du marché unique, c'est-à-dire l'intégrité, l'indivisibilité des quatre libertés, notre autonomie de décision. Nous avons fait tout ça avec eux pendant 44 ans. Ils connaissent bien ces principes. On ne va pas accepter de détricoter le marché unique à l'occasion du départ des Britanniques. Ça ne serait bon ni pour nous ni pour eux. Dans ces conditions, dans ce cadre-là, nous sommes ouverts pour faciliter ces dialogues et nous espérons que le gouvernement britannique trouvera, avec les forces politiques internes au Royaume-Uni, les conditions pour cette ratification. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Michel Barnier. Muito obrigada. Vamos passar a uma única ronda de perguntas. O senhor negociador-chefe terá que sair às 10h15 minutos. Por isso, tenho muita pena de não corresponder à expectativa inicialmente criada, mas temos só uma ronda. Convido o senhor Presidente da 2ª Comissão a fazer parte desta copresidência, desta reunião, e convido também o senhor Vice-Presidente da 6ª Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas a juntar-se a nós na copresidência. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Domingos, por 5 minutos, e depois seguirá a resposta individualizada do senhor negociador-chefe Michel Barnier. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, senhor Barnier. Agradecemos naturalmente a sua presença aqui hoje, num dia especialmente relevante, em que as dúvidas na realidade se adensam sobre a situação do Reino Unido na União Europeia. É a segunda vez que vem cá e é importante para o Parlamento Português esta prestação de contas e a transparência que tem demonstrado a Comissão Europeia, em particular o senhor Barnier, relativamente a este tema, portanto, muito lhe agradecemos. Agora, na realidade é que apesar da apresentação, e agradeço a apresentação do acordo que foi feito aqui hoje, o facto é que ele dificilmente avançará, sobretudo nestes moldes. Em particular, a questão que se pôs no Reino Unido parece ser o backstop que foi rejeitado pelas partes, enfim, por várias orientações dentro do Parlamento Britânico e, portanto, nestes moldes parece difícil este acordo agora avançar. E neste cenário, a primeira preocupação do PSD, e será, estou segura, a preocupação do Governo e de todo o Parlamento, prende-se com os cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido, mas também com a situação dos cidadãos britânicos que vivem em Portugal. A questão dos cidadãos, como referiu o Sr. Barnier bem na sua apresentação, foi das primeiras questões a ser tratada, foi tratada de uma forma com grande responsabilidade e, na nossa perspectiva, de uma forma satisfatória. Naturalmente, agora ficamos muito preocupados com a perspectiva de poder voltar à estaca zero nesta matéria, em particular perante a real possibilidade, como o Sr. Barnier disse ontem no Parlamento Europeu, de um aumento da probabilidade de uma saída sem acordo. E por isso a minha primeira pergunta é qual é a sua posição neste tema e como é que a União Europeia pretende garantir os direitos dos cidadãos e, obviamente, a nossa preocupação prende-se muito naturalmente com os cidadãos portugueses que vivem neste momento no Reino Unido. A Sra. Barnier, o acordo, o resultado no Parlamento Britânico mostrou que há motivações muito diversas para a rejeição do acordo, motivações que por vezes são diametralmente opostas e será muito difícil obter. Por isso, a posição do PSD, que é fundamental e urgente que o Reino Unido clarifique a sua posição, não só por causa da relação dos cidadãos que nós referimos, mas também por causa das relações comerciais, onde Portugal tem um déficit face ao Reino Unido em termos comerciais e, portanto, naturalmente questionamos como poderemos encontrar uma solução para estas questões. E perante este cenário, pergunto se há possibilidade, em primeiro lugar, de reabrir alguns pontos do acordo, de forma a permitir, efetivamente, evitar a saída sem acordo, em que condições é que estaria a União Europeia disponível para o fazer e em que partes do acordo é que seria possível fazê-lo, considerando que a questão irlandesa tem sido realmente um grande ponto de contenda no Reino Unido. E em segundo lugar, tem havido notícias nesse sentido, se o Reino Unido pedir um adiamento da data de saída, que parece ser o sentido em que as coisas estão a avançar, será que a União Europeia pretende aceitar esse adiamento? E aqui põe-se duas questões. Um adiamento muito curto não resolve grande coisa, porque a situação como ela está, com um adiamento curto, não se prevê que seja possível fazer grandes alterações ao acordo ou um grande, enfim, movimento de tentar convencer os deputados britânicos e, portanto, não se prevê que um adiamento curto seja muito útil. Por outro lado, um adiamento mais longo, que daria mais tempo para tentar chegar a um sítio, evitar uma saída sem acordo, prolonga a instabilidade e coloca a questão importante do que fazer com as eleições europeias. Portanto, a pergunta que eu tenho aqui é, parece-nos sensato dar mais tempo, porque objetivamente, no caso de Portugal, parece-nos fundamental haver um acordo, mas adiar sem ter alguma expectativa que se chegue a qualquer lado também será inútil e, portanto, gostava de saber a sua opinião sobre este tema. E para terminar, Sr. Barnier, ontem no Parlamento Europeu referiu que os governos deviam acelerar os planos de contingência perante os riscos que resultam da votação de ontem e, em particular, o risco acrescido de não acordo. Infelizmente, em Portugal, o Parlamento ainda não conhece com qualquer detalhe um plano de contingência. Temos uma notícia que haverá um plano de contingência. O PSD pediu incessantemente ao Governo que preparasse para a possibilidade de não acordo e durante meses o Governo só perdeu tempo. Lamentamos que não tenha seguido o conselho do PSD e que só tenha anunciado no final da semana passada que o vai fazer. Outros países, no entanto, já tiveram a previdência de preparar atempadamente planos de contingência. E na sua opinião, a pergunta que lhe queria fazer é qual é a situação de preparação dos Estados-membros perante a possibilidade de um não acordo? Muito obrigada, senhor.
Muito obrigada, senhora deputada Inês Domingos. Tem a palavra o senhor negociador-chefe Michel Barnier para a resposta, 5 minutos.
Madame Domingos, alors merci beaucoup de votre intervention. Il y a beaucoup de questions. D'abord, un constat que nous partageons. La situation est difficile. Et à la suite de ce vote avant-hier, il y a en effet une impasse de laquelle il faut sortir. Mais encore une fois, cette impasse est créée par la situation politique britannique, alors même que nous avions trouvé avec le gouvernement britannique un accord. Et c'est d'abord du côté britannique qu'il faut chercher les voies et moyens pour sortir de cette impasse, sans doute dans le dialogue que le gouvernement britannique propose et souhaite avec toutes les forces politiques britanniques pour construire une majorité positive. Je sais la préoccupation, non pas seulement la vôtre, mais celle de toutes les forces politiques portugaises, et le Premier ministre m'en a très souvent parlé, à propos des citoyens portugais. Il y a la même préoccupation en Italie, en France, en Pologne, dans le cas d'un no deal. Je veux dire très clairement que moi, j'ai travaillé depuis le premier jour pour trouver un accord, pour un deal. Vous n'avez pas besoin d'un négociateur pour un no deal. Vous avez besoin d'un négociateur pour trouver un deal, et nous l'avons trouvé avec les Britanniques. Mais c'est vrai que l'impasse actuelle à Londres aggrave ou accentue le risque du no deal aujourd'hui. Et donc, notre responsabilité, et nous devons être lucides, c'est de nous préparer à toutes les options. Donc nous nous préparons. Le secrétariat général de la Commission européenne a enclenché un travail de préparation interne pour tout ce qui touche le cadre communautaire européen. Et nous avons enclenché un processus de coopération avec tous les gouvernements, y inclus le gouvernement portugais, sur la préparation dans chaque pays des mesures, des lois quelquefois, de contingency, comme on dit. S'il n'y a pas de deal, il y aura de chaque côté des mesures de contingency unilatérales qui seront prises. Par exemple, pour éviter la rupture des communications en matière d'aviation. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union, il quitte le ciel unique, mécaniquement, automatiquement. Il faut trouver, c'est l'objet des accords, j'espère que nous pourrons faire de manière constructive et ensemble pour la future relation. Mais au minimum, il faudra trouver le moyen d'assurer que nos avions puissent atterrir au Royaume-Uni et les avions britanniques atterrir au Portugal ou dans les autres pays. Mais ça sera beaucoup plus difficile. Et ça ne se fera pas dans un climat de confiance s'il n'y a pas de deal. Pour les citoyens, j'ai dit devant le Parlement que ça a toujours été votre priorité, la nôtre, puisque moi je suis votre négociateur, et celle du Parlement européen. Et ça le restera en toute hypothèse, dans toutes les circonstances. Simplement, la meilleure garantie qu'on peut trouver, elle est là. Hein, parce que là, on a couvert tous les droits, pour tout le monde, et de manière durable. S'il n'y a pas de deal, il faudra qu'on prenne des mesures de contingency unilatérale de chaque côté. Et certaines de ces mesures relèvent du cadre communautaire européen. Et nous avons d'ores et déjà indiqué que nous prendrions des mesures au bénéfice des ressortissants britanniques qui vivent dans tel ou tel de nos pays. Nous souhaitons que les États membres, comme le Portugal y est prêt, est une position assez généreuse, la plus généreuse possible vis-à-vis des citoyens britanniques qui vivent chez nous, en les considérant comme résidents légaux. Nous souhaitons que les États membres puissent préserver des mécanismes de coordination pour la sécurité sociale. Et puis, il y a aussi, pour les résidents de pays tiers qui vivent chez nous en Europe, le statut protecteur de résident de long terme qui est inscrit dans le droit européen. Voilà. Nous souhaitons aussi que, sous réserve de réciprocité, les ressortissants britanniques puissent être exemptés de visas de courte durée, si c'est aussi le cas pour nous. Voilà. Je ne vais pas me prononcer, Madame Domingo, sur des questions sur lesquelles les États membres ne se sont pas prononcés, qui concernent des demandes qui n'existent pas aujourd'hui sur la prolongation de la négociation. Moi, j'ai toujours pensé que on a besoin de décisions. On a besoin de décisions et pas forcément de temps supplémentaire.
Muito obrigada, Sr. Michel Barnier. Agora vamos para o Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Barnier e agradecer a disponibilidade que manifestou em estar connosco esta manhã no Parlamento a falar-nos sobre o Brexit e a esclarecer as muitas dúvidas que ainda temos. E referir também que, na verdade, e como Vossa Excelência referiu ontem mesmo em Estrasburgo, a verdade é que jamais o risco de um não acordo foi tão elevado, mas também não é mesmo verdade que nunca o papel do negociador-chefe da União Europeia para o Brexit foi tão importante como é neste momento em que agora nos colocamos. Referi também, e já aqui foi mencionado, que para Portugal o Brexit tem um significado muito importante. Nós temos cerca de 4 mil portugueses a residir no Reino Unido.
400 mil,
sim. 4 mil britânicos a residir em Portugal, é ao contrário. O Reino Unido é o nosso quarto maior destino de exportações. Enfim, o Brexit poderá ter um alcance muito significativo para Portugal. Aliás, e na senda dessa preocupação, ontem mesmo o Partido Socialista organizou em Loulé uma sessão designada o PS Portas Abertas, que teve uma forte participação de cidadãos britânicos que se mostraram seriamente preocupados com o desfecho de todo este processo. E, na verdade, perante os últimos acontecimentos e o chumbo no Parlamento Britânico do acordo alcançado com a União Europeia, cada vez mais temos presente um cenário de hard Brexit e, no entanto, é de louvar todo o esforço que tem sido levado a cabo pela União Europeia, pela Comissão Europeia em particular, para que, ainda assim, até 29 de março de 2019, seja possível alcançar uma saída com o acordo. No entanto, e esta é uma situação que não podemos fugir, não obstante as suas últimas palavras em resposta à intervenção antecedente, a verdade é que nos últimos dias se tem falado muito em adiamento do artigo 50 e de prolongamento do prazo de saída, mas de facto esta, a questão das eleições europeias, é uma questão pertinente e é uma questão que se tem que colocar perante eventual cenário de adiamento, porque na verdade não sabemos em que situação ficaria o Reino Unido, porque se a saída se prolongar para lá de 29 de março, ou melhor, se prolongar para lá da data marcada para as eleições europeias, não fará sentido que o Reino Unido não possa participar nessas mesmas eleições europeias. Mas também é possível prever qualquer cenário de enquadramento destas eleições europeias com o Reino Unido, aliás, sem que o Reino Unido tenha já saído e depois não possa participar das eleições. A Theresa May já disse ontem que não abandonará o Brexit, ou seja, depois do prazo que terá de 3 dias, que já não são 3 dias, agora já é só 1 dia para apresentar um novo plano. A verdade é que não se tem falado que haja um novo plano, cada vez mais se tem verificado que Theresa May não tem um plano B, e por isso aquilo que certamente irá acontecer é uma nova votação daquele acordo que existe, porque não se está a vislumbrar outro cenário. Dizer também que, perante aquilo que se tem passado nos últimos tempos, não se pode também ignorar que Theresa May está cada vez mais isolada. Os defensores, os grandes defensores do Brexit, já abandonaram o Parlamento e abandonaram o Governo, e neste momento o Brexit que está em cima da mesa é um Brexit que ninguém quer, porque aqueles que inicialmente o defendiam não o querem e aqueles que nunca o quiseram continuam sem o querer. E, no fundo, esta é a realidade com que nos confrontamos e que também nos traz grandes problemas de negociação para o futuro. A pergunta que se impõe, por isso, é que como é que o Reino Unido vai ultrapassar esta situação se não conseguir ir além daquelas linhas vermelhas que há pouco falávamos, e também, além disso, há problemas para o futuro, que já aqui foram também mencionados, a questão da Irlanda do Norte e a Irlanda, e também a Escócia, que creio que ainda não foi aqui mencionado, porque a Escócia já referiu que no cenário de Brexit vai querer manter-se no seio da União Europeia, e este também poderá ser um problema que teremos que enfrentar para o futuro. E ainda restam alguns segundos, eu passaria a palavra também à, não sei se à minha colega Margarida Marques.
Senhora deputada Margarida Marques, se tem que ser muito, muito rigorosa no tempo. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Presidente. Queria começar por agradecer ao Comissário Barnier, Presidente uma vez, Presidente a vida inteira, a sua apresentação e também reconhecer o trabalho como negociador-chefe do lado da União Europeia. Queria apenas colocar-lhe uma questão no tempo que me resta, porque estavam previstas efetivamente duas voltas, e a questão é a seguinte. Deixou abertura ontem no Parlamento e agora também na possibilidade de, para simplificar, mudando as linhas vermelhas, pode haver uma negociação. Há dois documentos, há o Tratado de Saída e há a Declaração Política. O Tratado de Saída mais difícil de modificar, a Declaração Política mais fácil de modificar. Ontem, às 10 da noite, a senhora Theresa May fez uma declaração em que manifesta manter as linhas vermelhas. Mas a minha questão é a seguinte: a modificarem-se as linhas vermelhas por parte do Reino Unido, há, da parte da União Europeia, a disponibilidade para uma abertura relativamente a certos pontos, e quais são as questões-chave que acha que podem sair daí com a modificação das linhas vermelhas? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Tem agora a palavra o senhor Michel Barnier, negociador-chefe.
Bem, Madame Tavares, d'abord, vous avez rappelé un point important, c'est la proximité économique et humaine entre le Portugal et le Royaume-Uni. Et je pourrais y ajouter aussi une longue histoire dans le passé que nous connaissons. Ça me permet de répéter ma conviction que le Brexit, c'est lose-lose. Donc il s'agit de limiter les conséquences des deux côtés par rapport à une décision prise souverainement par le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et le marché unique et l'union douanière. Mais il s'agit bien de cela. Il n'y a pas de valeur ajoutée au Brexit. Donc il y a des conséquences. J'ai dit, le premier jour de ma nomination, des conséquences innombrables, humaines, sociales, juridiques, techniques, économiques, financières, qui ont été souvent sous-estimées ou mal expliquées. Et on a essayé de trouver des réponses dans ce document à beaucoup de ces questions. Mais il reste des conséquences négatives. Moi, ma ligne et ma détermination, elle reste de trouver un accord. Et je pense que c'est possible, dans l'intérêt commun. Donc ma ligne n'est pas celle du no deal. Simplement, il faut que quelque chose bouge dans la situation d'impasse ou de blocage où nous sommes. Il faut que quelque chose bouge. Et voilà ce que j'espère dans le débat britannique. Pour construire cette majorité positive et permettre ainsi d'enclencher le plus vite possible cette autre étape qui concerne la future relation. Voilà. Comme l'a dit Margarida, la déclaration politique, ce n'est pas un traité. C'est une déclaration politique agréée avec les Britanniques qui tient compte de leur ligne rouge et de nos principes. Et on a trouvé 26 pages que vous pouvez lire et qui sont très précises, les bases de cette future relation très ambitieuse. Unprecedented partnership. On peut être plus ambitieux. On peut être plus ambitieux. Hein. Le Conseil européen lui-même, auquel participe votre Premier ministre, en mars 2018, a dit, et j'ai redit hier devant le Parlement, je cite, « Si les positions britanniques devaient évoluer, l'Union est prête à revoir son offre conformément aux principes énoncés précédemment. » Donc nous sommes prêts à accompagner cette ambition immédiatement, hein, c'est-à-dire aller au-delà, pour être très clair, de ce qui est la base commune de notre accord aujourd'hui, qui est un accord de Free Trade Agreement, de faire plus. Mais, mesdames et messieurs les députés, vous êtes parlementaires nationaux, je l'ai souvent été, nous sommes tous copropriétaires, tous, de ce qu'est l'Union européenne, hein, et du marché unique. Nous sommes copropriétaires. Ce marché unique, ce n'est pas seulement une zone de libre-échange. Ce n'est pas seulement un supermarket. Hein. C'est un écosystème. Un écosystème que nous avons construit ensemble et avec les Britanniques pendant 44 ans. J'ai été le commissaire au marché intérieur, donc j'ai vu la forte influence du Royaume-Uni pour légiférer et construire le cadre du marché unique. Mais c'est un écosystème où nous avons les mêmes normes industrielles, environnementales, les mêmes standards, une supervision commune pour les services financiers, que j'ai d'ailleurs contribué à améliorer à la suite de la crise financière qui a touché votre pays et toute l'Europe, une régulation commune et au-dessus, une juridiction commune. C'est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange. Et c'est ça qui fait notre force. Pourquoi M. Trump reçoit le président Juncker et discute avec lui tout simplement parce que Jean-Claude Juncker, quand il va à Washington, il parle au nom de cette union et du marché unique qui est la base, qui est le plancher de l'Union européenne. 500 millions de consommateurs, de citoyens qui vivent dans cet écosystème, qui sont souvent protégés, qui pourraient d'ailleurs être mieux protégés encore, une politique commerciale commune, une politique de la concurrence commune. Mesdames et messieurs, c'est ça qui fait notre force. La raison pour laquelle nous sommes respectés par les Chinois ou les Américains, c'est ça. Et on ne peut pas se permettre de détricoter ça. Parce que c'est la base de l'Union européenne. Hein, il ne faut pas se contenter de cela. Je pense qu'il faut ajouter à cela, là je parle comme l'homme politique que je suis, une dimension humaine, sociale, culturelle. Il faut ajouter une politique de défense, politique étrangère. Mais la base, c'est le marché commun, puis le marché unique, qui est cet écosystème. Et c'est ça qui est en cause. Et nous expliquons calmement. Moi, je n'ai jamais été agressif dans cette négociation, parce que je regrette le départ des Britanniques. Et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le peuple britannique et pour l'histoire de ce pays, sa solidarité avec nous, notamment dans les heures les plus tragiques du XXe siècle. Le Royaume-Uni va rester définitivement notre ami, notre allié, notre partenaire. Ami, allié, partenaire. Mais il doit comprendre que le marché unique, ses principes, l'indivisibilité des quatre libertés, on ne peut pas négocier là-dessus. On ne peut pas négocier. C'est notre force principale. Donc et j'ajoute, Madame Tavares, que le 30 mars, c'est une date choisie par Theresa May. C'est le gouvernement britannique qui a choisi la date de son départ. Ce n'est pas nous. Quand elle a envoyé la lettre de notification en mars 2017, elle a choisi la date et elle a d'ailleurs même fait mettre dans la loi britannique la date de sortie. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de prolongation. Et je ne vais pas faire non plus d'autres commentaires sur la situation politique interne, parce que ce n'est pas mon rôle. Hein. Je veux respecter, en ce qui me concerne, le débat britannique. Hein.
Muito obrigada, Sr. Negociador-Chefe. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e cumprimentar, obviamente, o Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier e a sua equipa e agradecer a sua presença aqui no Parlamento, sendo que esta audição ocorre, obviamente, num momento muito importante, onde o debate sobre o que é que vai acontecer com o Brexit volta a reacender. Infelizmente, o clima de incerteza também associado a este debate volta a reacender, sendo que este clima acabou por nunca desaparecer, e acho que a única coisa que todos podemos concordar é que estamos perante, com toda a certeza, um dos processos políticos mais complexos dos últimos anos, e existem várias abordagens, ou podemos ter várias abordagens, quando o analisamos. E gostávamos de dividir aqui as nossas questões em três pontos essenciais. Em primeiro lugar, perceber que também do nosso ponto de vista, o Brexit acaba por ser um reflexo também de como este projeto europeu falhou aos povos, porque falhou desde o início, desde logo, porque nunca os consultou nem ouviu devidamente sobre absolutamente nada relativo a este projeto, e também falhou porque as escolhas políticas, nomeadamente a nível de economia, finanças, ambiente, mais recentemente refugiados, por exemplo, têm seguido um caminho de degradação de condições de vida, um caminho de centralização do centro de decisão, e na sua última intervenção deu bem a imagem do que é esta centralização e burocratização da decisão, da tomada de decisão política dentro das instituições europeias, e neste momento temos um roteiro que teima em continuarem a aprofundar este tipo de políticas. Depois importa também perceber, e do nosso ponto de vista nós percebemos bastante bem, no caso britânico existiu obviamente uma campanha muito acirrada por movimentos xenófobos, por falsos argumentos, por uma polarização política que tinha muito pouco a ver com aquilo que efetivamente estava em causa, e, no entanto, a decisão do povo britânico foi tomada em referendo. Acho que temos que valorizar o instrumento do referendo enquanto um instrumento democrático importante, e por isso a decisão deve ser respeitada. Em terceiro lugar, o processo de negociação em si e o próprio momento de hoje. E, entretanto, o Sr. Negociador já deu aqui algumas informações, algumas visões daquilo que foi o processo e daquilo que poderá vir a ser, e, obviamente, é a pessoa mais indicada neste momento para nos responder ou para tentar esclarecer aqui algumas dúvidas. E parece-nos que existem neste momento três hipóteses em cima da mesa, poderá haver outras, mas existem três grandes hipóteses em cima da mesa: a prorrogação do prazo de saída, a retirada do artigo 50 ou uma saída sem acordo. Percebo aquilo que diz quando o seu papel existe porque existe a vontade de existir um acordo, mas neste momento e já há alguns meses existe a possibilidade de um não acordo muito forte, e portanto é também necessário analisar politicamente esta possibilidade. Sobre a questão da prorrogação do prazo, ficou já, pelo menos para mim, claro, das suas respostas anteriores, que o Sr. Negociador-Chefe não é muito favorável, não é nada favorável, a uma prorrogação do prazo. Poderei ter feito uma análise errada, mas das suas palavras parece-me que a sua posição é de não concordar com uma prorrogação do prazo, e possivelmente isto terá a ver com aquilo que tem sido dito por parte do lado europeu, que é: este é o único acordo possível, este é não haverá renegociação. No entanto, ao mesmo tempo, fala-se da possibilidade de o Reino Unido alterar as suas linhas vermelhas. Sendo isto uma negociação, eu pergunto que linhas vermelhas é que a União Europeia também está disposta a mudar, porque a coisa vai para os dois lados, não pode ser apenas um dos lados a ceder numa negociação, e portanto perguntar quais é que consideram que são as linhas vermelhas que o Reino Unido deve, ou na perspectiva da União Europeia, necessitaria de alterar, mas que linhas vermelhas é que a União Europeia está disposta também a alterar, existindo a vontade do Reino Unido de prorrogar o prazo. Sobre a retirada do artigo 50, do nosso ponto de vista, poderão ainda existir dúvidas jurídicas, mas não é esse o debate que nos interessa. Mas a pergunta que eu coloco é: se vier a verificar um pedido de retirada do artigo 50, como é que, da parte do negociador e por parte da União Europeia, vê esta possibilidade e como é que acham que ela poderá resultar? E, finalmente, sobre a possibilidade de uma saída sem acordo, que infelizmente é uma possibilidade muito real, preocupa-nos aqui essencialmente a dimensão sobre direitos de cidadão, já aqui o referiu, temos-lo dito também aos nossos governantes aqui em Portugal, apesar de existir um compromisso político de meio, de 3 a meio, de que se mantém a dimensão dos direitos cidadãos, mesmo que não exista um acordo, ou que não seja este acordo o acordo assinado, a verdade é que não temos um compromisso palpável, efetivo, do ponto de vista jurídico. Não há nada, na verdade, que nos garanta que, e estou a terminar, Sra. Presidente, que este compromisso político de 3 a meio seja cumprido. Já percebemos aqui em Portugal que existe uma confiança quase cega de que este compromisso será seguido, perceber da parte do negociador-chefe e da União Europeia que garantias, então, é que podemos dar efetivas, palpáveis, de que os direitos dos cidadãos são garantidos, nomeadamente da comunidade portuguesa, que é das maiores no Reino Unido, porque neste momento do processo político, compromissos políticos claramente não chegam, precisamos de um bocadinho mais do que isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier.
Madame Pires, je vous ai écouté avec attention. Je connais votre position sur le projet européen et votre désaccord, et on l'entend bien. Je peux être d'accord avec vous sur le fait que, quand on examine les raisons du Brexit, ce que j'ai appelé, moi, les leçons du Brexit, là, je m'exprime en dehors, si je puis dire, de mon rôle de négociateur, puisque je traite les conséquences du Brexit avec vous. Mais je peux aussi, comme homme politique, et j'ai été élu toute ma vie personnellement par les citoyens, dire que on doit être aussi attentif en tant qu'homme et femme politique à Bruxelles et dans chaque capitale aux raisons du Brexit. Pourquoi les citoyens britanniques, une majorité d'entre eux, à un certain moment, ont voté contre l'Europe? Là, il y a des raisons qu'il faut comprendre. Et on doit essayer de comprendre et de corriger ce qui doit l'être. Le sentiment de ne pas être suffisamment protégé. Sentiment de que parfois d'abandon dans certaines régions, la désindustrialisation, les conséquences négatives de la mondialisation. Il y a des raisons qu'il faut examiner et auxquelles il faut apporter des réponses. Au niveau européen, pour ce qui concerne l'Europe, mais s'il vous plaît, ne dites pas que Bruxelles est responsable de tous les problèmes. Il y a des réponses nationales, des réponses locales à ce sentiment d'isolement ou d'exclusion. Je dis ça parce que dans mon propre pays, je vois bien à travers des votes extrêmes s'exprimer les mêmes colères ou les mêmes angoisses sociales ou territoriales. Donc mon opinion personnelle, Madame Pires, c'est qu'il faut, à chaque niveau, assumer sa responsabilité et chercher à répondre à ce sentiment sur la sécurité et l'exclusion. Tout à l'heure, j'ai décrit ce qu'est le marché unique et j'ai parlé de normes, de standards et de droits. Et je trouve personnellement, si je puis vous dire mon sentiment, que vous ne devez pas sous-estimer dans le monde où nous sommes, qui est un monde dangereux, instable, fragile, injuste, et ça ne s'arrange pas, comme on le voit actuellement partout dans le monde, les protections qu'apporte l'Union européenne. Elles ne sont pas suffisantes, mais elles existent. Sur les droits des consommateurs, sur les droits sociaux, sur les droits en matière d'environnement. Ça sera un débat au moment des élections européennes. Mais imaginez que l'Union européenne disparaisse que cet ensemble de droits, de standards disparaisse. Chaque pays se trouve tout seul face aux grandes puissances du monde. On a la carte, non ? Juste, permettez-moi de vous montrer juste, s'il vous plaît, cette carte. Hein, pour vous dire, Madame Pires, pourquoi moi, je suis passionnément patriote et aussi définitivement européen. En plus, pas à la place d'être patriote, mais en plus. Ça, ce tableau, c'est M. Cameron qui l'a fait, avant de proposer le référendum sur le Brexit. À gauche, c'est un tableau de M. Cameron, qui montre le G8. C'est la réalité du monde. Hein. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans le G8. Et au rythme probable, la croissance des uns et des autres, mesdames et messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, parfois, on espère encore les Européens, mais plus personne ne nous attend. Plus personne ne nous attend. Ni les Chinois, ni les Brésiliens, ni les Américains, ni les Russes. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les 10 ans, vous avez un des 4 pays qui est éjecté. Et en 2009, en 2050, demain, l'Allemagne est le seul pays membre du G8. Et il recule. J'ai pris les mêmes chiffres dans la partie droite et je les ai actualisés pour montrer qu'ensemble, nous restons dans le top 5, mais le Royaume-Uni tout seul, progressivement, est exclu. Ça, c'est la réalité, mesdames et messieurs. Vous êtes des hommes et des femmes politiques, chacun a ses opinions, ses convictions, je les respecte toutes, mais ça, c'est la réalité. On doit dire la vérité aux citoyens. Si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes sous-traitants et sous influence des Chinois et des Américains. Définitivement sous-traitants et sous influence. Et moi, je n'ai pas fait de la politique, ni vous sans doute, pour être sous-traitant et sous influence. Et je dis bien être européen en plus d'être portugais. Pas à la place, en plus. Hein. Et ce n'est pas de la bureaucratisation, Madame Pires. Ce n'est pas de la bureaucratisation. Moi, je ne suis pas un super technocrate. Je suis un homme politique comme vous. Hein. J'ai été élu toute ma vie. Quand la bureaucratie prend le pouvoir, c'est que les hommes politiques ont laissé le pouvoir aux bureaucrates. Hein. Bon. Alors, nous respecterons la volonté britannique, mais nous demandons aux Britanniques de respecter ce qui fait notre force et ce qui fait que nous sommes à la table et pas derrière la table à regarder ce que décident les autres pour nous. Hein. Nous voulons rester à la table. Pour rester à la table, il faut être ensemble. Après, on peut discuter de la manière d'être ensemble, hein, mais ne négligez pas, ne sous-estimez pas, s'il vous plaît, l'ensemble des droits, des protections que nous apportons qui peuvent être améliorées. La prolongation des échéances, je n'ai pas exprimé d'opinion, parce que je ne suis pas mandaté pour le faire. C'est une discussion qui n'a pas eu lieu au niveau des dirigeants européens, parce que les Britanniques n'ont pas fait de demande. Les questions qu'ils poseraient, c'est combien de temps et pourquoi faire. Mais pour l'instant, la question n'a pas été posée. Voilà. Et j'ai été frappé par une remarque, Madame Pires, que vous avez faite. Vous dites, quelles sont les concessions que l'Europe peut faire ? On n'est pas dans un bargaining habituel. On n'est pas en train de faire du commerce. Nous sommes co-responsables de l'Union européenne que les Britanniques quittent. C'est eux qui quittent. Ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni. C'est eux qui quittent l'Union européenne. Et nous avons la responsabilité, vous avez la responsabilité de préserver ce que nous sommes. Je peux aller un peu plus dans les détails par rapport à certaines demandes britanniques que nous n'avons pas pu accepter parce qu'elles étaient contraires aux principes et à ce qu'on appelle le level playing field. Et elles se seraient faites au détriment de l'économie portugaise ou française ou allemande. Quand les Britanniques... Je vais prendre un exemple. Quand les Britanniques, dans le document du White Paper, il y a au mois de juillet, Checkers, nous ont dit, on voudrait le single market for goods only. Nous avons toujours dit que le marché unique, c'est indivisible. Il y a les quatre libertés, les marchandises, les services, les capitaux et surtout les personnes, la liberté de circulation, grâce à laquelle les Portugais sont allés au Royaume-Uni et les Britanniques sont venus ici au Portugal. Donc nous avons dit que ce n'est pas possible. Mais il y a des raisons objectives à cela. Ce n'est pas de l'idéologie. S'aligner sur les produits. Les produits, c'est quoi ? Un téléphone, voilà. Vous avez des matières premières et puis vous avez des standards qui forment le prix réglementaire du produit. Je prends un exemple, les produits chimiques. Dans les produits chimiques, vous avez des matières premières, je les laisse de côté. Et puis vous avez le standard des produits et puis vous avez des règles dans le pays où on fabrique le produit, qui accroissent et qui augmentent le coût du produit. Les Britanniques nous disent on va respecter les standards. Mais dans les produits chimiques, 70% du prix réglementaire des produits chimiques, ce sont les standards environnementaux et les standards sociaux de l'Union européenne que nous avons décidés ensemble. Alors, ils voudraient respecter les standards pour 30 produits, pour 30% et pouvoir diverger sur 70%. Ça crée immédiatement un désavantage compétitif contre l'industrie portugaise ou européenne. Et on ne va pas accepter ça. C'est aussi simple que ça. Nous voulons une relation équilibrée et faire. Mais nous avons cette responsabilité. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est sous le background de cette négociation. Hein. Nous ne sommes pas dans une négociation commerciale habituelle. C'est un processus de sortie du Royaume-Uni. Ils sortent. Et donc, on est prêt à coopérer, à trouver la meilleure sortie possible, mais on ne peut pas détricoter ce que nous sommes hein, au moment où ils partent. Hein. C'est pas possible.
Merci. Muito obrigada, Sr. Negociador-Chefe. Agora tem a palavra Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Michel Barnier, agradecendo muito a sua presença. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, mas primeiro queria só dar três notas. Primeira nota, nós não sabemos ainda o que é que vai ser o Brexit. Aliás, estamos a 100 dias do dia 29 de março e parece que estamos até mais longe do que estávamos há 658 dias atrás, quando o processo começou. Mas há uma coisa que nós sabemos. Sabemos que o Brexit, pelo menos do ponto de vista da União Europeia, não foi um processo punitivo. Esta negociação não está a ser uma punição a um Estado que quer sair. E eu acho que isso é muito relevante, porque a forma como a União Europeia conduzir o processo do Brexit dirá muito, acima de tudo, sobre o que hoje é a União Europeia. E eu acho que se a negociação está a ser, nesse sentido, bem dirigida, também se deve muito à sua presença, deve-se muito à sua liderança, e eu queria destacar isso. Segunda nota. Nós ainda agora vimos aqui um ataque à falta de transparência, ao processo em que dizia que o processo da União Europeia não era um processo democrático. Eu registrei que o negociador-chefe, o Sr. Barnier, visitou 27 capitais, esteve presente em 18 Parlamentos Nacionais, no caso do Parlamento Português até esteve presente duas vezes, esteve presente no Parlamento Europeu e até vai estar hoje numa reunião no Conselho de Estado. Eu penso que esse é caso único. Mas eu acho que é a prova provada que nunca houve um acordo tão escrutinado, nunca houve um processo tão transparente do ponto de vista da União Europeia como este está a ser. E isso é muito importante também porque, mais uma vez, dá uma nota sobre a forma como nós queremos construir este processo europeu e, desse ponto de vista, a construção está a ser bem feita. Uma terceira nota, esta mais de índole pessoal. Eu não passou a mim despercebida uma declaração que o Sr. Michel Barnier fez em setembro do ano passado, quando disse que, de alguma forma, abandonaria a corrida para a ambição de concorrer a Presidente da Comissão Europeia pelo PPE, e eu faço parte do PPE, ser o Spitzenkandidat do PPE, porque queria dedicar-se exclusivamente a este processo. E eu não queria deixar de destacar a nobreza de espírito e de caráter que isso revela, ainda que lamento, nomeadamente pessoalmente, porque pessoalmente até gostaria de o poder ter apoiado nessa mesma corrida. Dito isto, queria só fazer aqui quatro questões que para mim são muito relevantes. Nós estamos num ponto que é um ponto muito indesejável neste mesmo processo. Não sabemos o que é que vai acontecer no dia 29 de março. Concordo com a sua declaração ontem expressa, em que se dizia que neste momento cabe também ao Reino Unido clarificar a sua posição, e esperemos que no início da próxima semana a declaração da Primeira-Ministra Theresa May vá nesse sentido, de se perceber mais claramente o que é que o Reino Unido neste momento quer. Respeito nesse sentido a legitimidade de um povo que se expressou num referendo, mas não podemos deixar de transigir também nas nossas linhas essenciais, e as nossas linhas essenciais, de um ponto de vista, são três. Primeiro, não é aceitável que um Estado terceiro possa beneficiar, possa ter o mesmo nível de benefícios que um Estado que é membro da União Europeia. Isso ia promover até de alguma forma um risco moral a todos os países que quisessem sair. Segundo, não é aceitável que nesta negociação se faça uma lógica de cherry picking, não é aceitável que se escolha umas liberdades em detrimento das outras, isso não é possível para nós também. E terceiro, também não é aceitável ou possível que haja um desrespeito das regras essenciais de concorrência, de auxílios de Estado, os chamados level playing fields, que geraria uma concorrência desleal para com as empresas europeias e para com as empresas portuguesas, aquele cenário da Singapura às portas da Europa. E é por isso que lhe queria colocar quatro questões. A primeira, e compreenda que um parlamentar nacional, antes de mais, tem de estar preocupado com os cidadãos do seu país, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte: nós temos neste momento mais de 300 mil portugueses no Reino Unido, o governo português já garantiu que todos os cidadãos britânicos que estão neste momento a residir em Portugal vão manter a integralidade dos seus direitos, e o governo português espera que, do ponto de vista das autoridades britânicas, haja uma reciprocidade. Pergunto-lhe se acha que isso é possível, nomeadamente quando nós sabemos que a questão da liberdade de circulação foi porventura a questão mais relevante no âmbito do referendo do Brexit. Uma segunda pergunta tem exatamente a ver com esta questão dos level playing fields. O que é que nós podemos, enquanto União Europeia, impor de respeito por regras de concorrência, por regras de auxílio de Estado, que protejam também as nossas empresas, nomeadamente se tivermos concorrência desleal no domínio fiscal, no domínio ambiental, no domínio social, no domínio regulamentar, numa saída desordenada do Brexit? Essa é uma questão para nós muito relevante. Falava há muito pouco tempo com um empresário português que me dizia que ele exporta para os Estados Unidos, ele exporta para o Japão, ele exporta para todo lado, e portanto exportar para o Reino Unido não será um problema. Será mais difícil para ele concorrer com regras desleais. Isso preocupa muito. Terceira pergunta, e abdico da minha quarta pergunta. Há uma ideia em cima da mesa de se poder, do Reino Unido poder aderir numa lógica de um espaço económico europeu menos. Isso implicaria unanimidade dos Estados. Acha que isso é possível do ponto de vista europeu?
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier para as respostas.
Monsieur Mota Soares, j'ai pas bien compris le dernier point que vous avez fait sur la question de l'unanimité. Vous pouvez juste me préciser ce point?
Claro que sim, muito obrigado. Um dos cenários que muitas vezes do ponto de vista do Reino Unido é colocado em cima da mesa é que possa existir uma relação comercial que seja uma espécie de espaço económico europeu menos, com algumas das liberdades de fora. Isso implica, como é óbvio, do ponto de vista da União Europeia, uma ratificação em cada um dos Estados nacionais. Acha que isso é possível? Acha que é possível em cada um dos Parlamentos nacionais, em cada um dos governos, haver uma ratificação de um cenário como este?
Oui. D'abord, merci de vos appréciations personnelles, j'y suis sensible. Je veux tout à fait que les choses soient claires. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un super technocrate bruxellois, mais dans cette mission, je ne suis pas partisan. Je travaille avec, et au nom de tous les pays de l'Union, il y a des gouvernements de toutes les sensibilités, je travaille avec tous les groupes du Parlement européen, en confiance et en bonne intelligence, et je ne serai jamais partisan ni sectaire dans cette mission. Je garde mes convictions, et pour autant, comme je l'ai fait tout à l'heure en répondant à Mme Pirèche, j'ai le droit de donner mon opinion sur les grands sujets européens, et je participerai au débat d'idées sur avec l'expérience que je peux avoir, le besoin d'expliquer. Mais ma priorité totale, ma détermination est concentrée sur le Brexit, parce que cette négociation est trop grave. pas seulement liée à la relation entre nous et le Royaume-Uni, mais aussi pour les enjeux européens et l'intégrité du projet européen, comme je vous l'ai dit. En tout cas, je resterai concentré sur le Brexit et c'est pour ça que j'ai fait un certain nombre de choix politiques. Oui, M. Mota Soares, nous attendons du Royaume-Uni maintenant qu'il dise lui-même comment il voit les choses. Hein. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités et c'est maintenant au gouvernement britannique, à la suite de ce vote d'avant-hier, et à Mme May de nous dire comment elle voit les choses. La protection des citoyens, la meilleure garantie, c'est ce traité. La meilleure garantie, c'est ce traité. Parce que là, nous avons couvert la quasi-totalité des droits de manière durable. Et s'il n'y a pas ce traité, je ne peux pas dire, puisque ce sera unilatéral de chaque côté. On demandera de la réciprocité, mais nous devrons procéder unilatéralement du côté de l'Union au niveau communautaire et au niveau de chaque pays, puisque beaucoup de droits des citoyens dépendent de chaque pays, notamment les droits civiques. Et puis, nous attendrons du côté britannique vis-à-vis de nos citoyens, notamment des centaines de milliers de Portugais qui vivent à Londres ou au Royaume-Uni, de la même attitude ouverte. Ma conviction personnelle, c'est que il y a des deux côtés, en toute hypothèse, c'est pour ça qu'on a abouti à cet accord. Il y a des deux côtés une volonté positive de traiter les citoyens par priorité et de manière correcte. Voilà ce que je pense. Et je pense pouvoir dire que c'est aussi le cas du Royaume-Uni. Mais ça ne sera pas la même certitude juridique que ce traité, puisque ce sont des mesures unilatérales. Et, mesdames et messieurs, je répète, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne comme il l'a choisi. Et nous respectons ce vote. Nous respectons ce vote. Mais après le Brexit, et pour les citoyens portugais ou français ou autres qui voudront aller vivre au Royaume-Uni après, la situation sera très, très différente. Ça sera la nouvelle politique d'immigration du Royaume-Uni à l'égard des pays tiers. Nous serons des pays tiers. Il n'y aura plus de liberté de circulation comme aujourd'hui. Ce que nous voulons traiter, là, ce sont les droits existants des citoyens qui auront été acquis jusqu'à la fin 2020. Voilà. D'une manière générale, mesdames et messieurs, si on doit dire la vérité. Le Brexit, ce n'est pas business as usual. Je parle du reste, des autres sujets, notamment pour l'économie, le commerce. Je connais les chiffres et les échanges très importants pour l'agriculture, pour le tourisme entre le Portugal et le Royaume-Uni. Ça ne peut pas être business as usual. Les Britanniques ont voulu rompre avec le cadre dans lequel ils sont aujourd'hui. Et donc, il y aura des changements. Et notamment, c'est pour ça que la question de la future relation est très importante. Et l'intensité de notre relation, M. Mota Soares, l'intensité de notre relation, si c'est un free trade agreement, et nous sommes d'accord, ça sera au moins ça, comme le Canada ou le Japon, pas de quotas, pas de tarifs, ça facilite les échanges. Mais il y a toujours des contrôles. Nous devons contrôler les produits pour protéger les consommateurs et protéger les industries. Voilà aussi pourquoi la discussion reste ouverte sur l'intensité de cette relation avec le Royaume-Uni, selon ce qu'il souhaitera. Voilà. Nous parlons d'un free trade agreement. Ce sera au moins ça que nous ferons avec le Royaume-Uni, je pense, et j'espère plus. Mais c'est quand même une négociation originale, M. Mota Soares. Pourquoi ? Parce qu'on a, dans le passé, conduit une cinquantaine de négociations commerciales avec des pays tiers. Récemment, le Japon, le Canada ou la Corée. Chaque fois, il s'est agi d'un processus de convergence réglementaire avec ces pays. On s'est rapproché pour mieux commercer, pour faciliter les échanges. On a fait des rapprochements réglementaires. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est le contraire. Nous sommes intégrés et ils divergent. Et la question qu'on doit poser, c'est qu'est-ce que devient cette divergence dans le futur ? Est-ce qu'elle reste raisonnable, contrôlée, par qui ? Ou est-ce qu'elle devient un outil de compétition réglementaire, de dumping contre les droits sociaux, les droits environnementaux, les droits des consommateurs, dumping fiscal ? Ça, c'est une question. Et c'est aussi pourquoi nous prenons des précautions pour protéger ces droits chez nous.
Muito obrigada, Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier. Agora tem a palavra o Partido Comunista Português, Paula Santos, deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Michel Barnier. Hoje, aqui na nossa reunião, já fez referência de que seria necessário tirar lições relativamente a este processo e ao fato do povo britânico, de uma forma legítima e soberana, ter tomado a decisão de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas deixe-me dizer que a União Europeia não tirou qualquer lição relativamente a esta matéria, porque a decisão do povo britânico de rejeição da União Europeia e das suas opções políticas deve-se efetivamente porque elas não vão ao encontro dos interesses dos trabalhadores e dos povos. Deve-se exatamente porque elas são responsáveis pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores e dos povos, das desigualdades, de constante desrespeito pela soberania dos Estados-membros. E aquilo que a União Europeia e as suas instituições têm, as opções políticas que têm tomado, não vão no sentido de ir ao encontro da resolução destes problemas, mas muito pelo contrário, de os agravar, de atacar direitos e de prosseguir um caminho numa espécie de fuga em frente quando há uma enorme crise das próprias instituições e da própria União Europeia, mas o caminho é numa lógica de maior aprofundamento deste processo de integração capitalista que, de facto, não resolve nenhum dos problemas que aqui identifiquei. A rejeição pelo Parlamento Britânico do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia é inseparável das pressões, chantagens, manobras que quer as instituições europeias, quer o próprio Reino Unido, procuraram sempre introduzir neste processo com o objetivo de reverter a decisão legítima e soberana do povo britânico. Eu recordo-me que desde o primeiro momento a União Europeia criou diversas dificuldades em todo o processo negocial e sim, procurou que houvesse uma espécie de punição do povo britânico pela ousadia de ter tomado uma decisão de saída da União, de saída do Reino da União Europeia.
Senhora deputada, há um ruído de fundo que não é só da tradução simultânea, que eu agradecia que cessasse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Procurando deixar como exemplo todo este processo para que, numa tentativa também que nenhum outro povo de Estado-membro da União Europeia ouse tomar uma decisão semelhante para que a União, fazendo crer que a União Europeia é a solução, quando efetivamente neste momento é um problema para os povos e para o desenvolvimento soberano de cada um dos Estados-membros. O documento aprovado no Conselho Europeu replica os fundamentos do processo de integração capitalista e não vai ao encontro das aspirações dos trabalhadores e do povo britânico. Sr. Presidente, eu respeitei todas as intervenções, eu percebo que as opiniões do PCP sejam incómodas para muitos dos que aqui estão presentes, mas eu agradeço que haja o mesmo respeito pela intervenção que estou a fazer. Relativamente ao acordo, queríamos também referir que não deixa de ser sintomático, como o Sr. Michel Barnier referiu, que há de facto grandes desentendimentos, mas há um aspecto em que houve de facto acordo entre a União Europeia e entre o Reino Unido, que foi no campo do militarismo, da NATO, da escalada militarista que está em curso. Preocupa-nos também que este acordo possa ir numa perspectiva, aliás, e perspectiva é essa, quer da parte da União Europeia, quer também da parte do próprio Reino Unido, de prosseguir um caminho de desvalorização geral dos direitos e das condições de vida dos trabalhadores. Foi aqui muito referido a questão dos direitos dos cidadãos e da proteção dos direitos dos cidadãos. E essa é também uma grande preocupação por parte do Partido Comunista Português, em particular da comunidade portuguesa que reside e trabalha no próprio Reino Unido. E preocupa-nos, de facto, que os interesses da comunidade portuguesa não estejam devidamente salvaguardados em todo este processo e, por isso, temos sempre a nossa intervenção tem sido sempre no sentido que o governo português salvaguardasse esses mesmos interesses, mas que salvaguardasse também os interesses nacionais, e consideramos que deveriam ter sido prosseguidas relações bilaterais com o Reino Unido numa perspectiva de ir ao encontro dos interesses dos povos, do povo português e do povo britânico. Também não podemos deixar de referir, e para terminar, Senhora Presidente, de que todo este processo teve sempre debaixo de uma grande campanha, política e ideológica, de referir que esta decisão do povo britânico era desastrosa para o Reino Unido. Não há nada que o confirme e que fundamente esta afirmação, é algo que está por provar, mas houve sempre esta ameaça, não só durante o período eleitoral, mas posteriormente no período de negociação. Ouvi atentamente aquilo que o Sr. Michel Barnier aqui referiu, relativamente perante o atual momento em que nos encontramos e as perspectivas do futuro, referindo, questionando até, mas mais tempo, para quê? Por isso a questão que gostava de lhe deixar e a opinião que pergunto-lhe, na sua opinião, face ao atual momento, o que é que acha que deve ser o caminho e a solução para o processo que está em cima da mesa?
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier para as respostas.
Madame, Santos, d'abord, j'écoute tout le monde avec beaucoup de respect et je pense que toutes les opinions doivent être respectées, et la vôtre comme les autres, et ça me permet de mieux comprendre aussi la réalité du débat politique ici au Portugal. Peut-être je peux juste vous poser une question pour bien comprendre la position de votre pays, de votre parti. Si je vous écoute bien, vous souhaiteriez que l'Union européenne disparaisse ?
Monsieur le Président, creio que estamos numa audição ao Sr. Michel Barnier, mas a posição do Partido Comunista relativamente à União Europeia, eu queria aqui deixar bem claro que o que é importante neste processo de face à decisão do povo britânico é de facto o respeito pela decisão que foi tomada. Relativamente à União Europeia, ela não dá resposta, e as opções políticas que foram colocadas não dão resposta aos trabalhadores e ao povo, e aos povos dos vários Estados-membros. E aquilo que é preciso é de facto uma outra Europa, uma Europa dos trabalhadores, dos direitos, da paz. Mas, Senhora Presidente, eu creio que não é o PCP que está a ser questionado e que estamos numa audição, e eu gostaria de facto de ouvir era a opinião do Senhor Michel Barnier.
Quand je vous pose des questions, c'est aussi une manière de vous respecter, madame. Je sais bien que c'est moi qui suis interrogé, c'est moi qui viens vous voir. Et je reviendrai aussi souvent. Je ne suis pas dans un tribunal, c'est moi qui demandais à venir vous parler, mais ça m'intéresse de vous poser des questions aussi, et de comprendre qu'au fond, vous me dites que l'Union européenne doit disparaître parce qu'elle n'est pas utile. C'est exactement ce que me dit M. Farage, d'ailleurs. Lui, il veut détruire l'Union européenne aussi. Et nous, nous voulons préserver l'Union européenne, madame. Parce que nous pensons que les droits des travailleurs, les droits des consommateurs, les droits des citoyens, l'égalité des chances pour les entreprises, c'est pas idéal, mais sont mieux préservés, mieux défendus ensemble, dans le monde où nous sommes, que chacun chez soi ou chacun pour soi. La question que j'ai essayé de poser à travers ce tableau, c'est est-ce que, si on est tout seul, le Portugal tout seul, la France toute seule, l'Angleterre toute seule, le Royaume-Uni, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça ira mieux pour les droits des travailleurs ? Alors, moi, ma réponse est non. Voilà. Et donc, je sais bien que c'est vous qui m'interrogez, donc moi, je vous réponds. Et aussi pourquoi, dans ma mission de négociateur, comme me l'ont demandé les 27 chefs de gouvernement et le Parlement européen dans sa diversité, y compris des gens de gauche ou de droite, je m'attache à préserver les intérêts et les principes de l'Union européenne, les valeurs de l'Union européenne et les principes sur lesquels nous avons construit ce projet européen imparfait. Il y a plein de choses à changer. Mais avant de le détruire, il faut bien réfléchir, hein. Parce que, au moins, Madame Santos, souvenez-vous de ce tableau. Hein. Voilà. Alors, il y a une chose que je n'accepte pas dans votre propos, il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord, puis il y a une chose que je n'accepte pas, c'est des mots qui ne correspondent pas à ce que je fais. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de menace, Madame Santos. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Jamais, jamais, comme négociateur, je n'ai eu dans mon état d'esprit, dans mon attitude, des pressions, des chantages, des manœuvres et des menaces. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste de dire ça. Et moi, je vous respecte, mais je vous demande de me respecter. Vous n'avez pas le droit de dire des choses qui ne sont pas vraies s'agissant de l'attitude du négociateur. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de pression. Nous respectons la volonté britannique. Et la seule chose que je fais depuis 18 mois, c'est de mettre en œuvre la volonté britannique en défendant les intérêts de l'Union européenne, puisque c'est mon travail. Il n'y a pas de revanche non plus, pour reprendre un mot qui a été utilisé tout à l'heure par M. Mota Soares, ni de punition. C'est le contraire de mon état d'esprit. Le contraire. Je regrette la décision de quitter l'Union européenne. Et donc, il n'y a pas de revanche ni de punition. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à ce stade à vous répondre.
Muito obrigada, Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier, pela clareza e pela frontalidade com que respondeu às perguntas dos deputados portugueses na Assembleia da República pela segunda vez. Congratulamos pela Comissão Europeia e as instituições europeias ter um negociador-chefe tão responsável e tão claro na sua missão. E por isso desejamos que tenha uma boa reunião hoje no Conselho de Estado e que continue a ter o maior sucesso como negociador-chefe. O Reino Unido é para nós, Portugal, um aliado e será sempre um aliado, qualquer que seja o desfecho deste processo. Muito obrigada mais uma vez, Michel Barnier. Foi um privilégio tê-lo aqui para explicar de viva voz o seu papel vital nesta negociação. Muito obrigada também à delegação que o acompanha, muito obrigada à Sofia Alves, muito obrigada aos senhores deputados das três comissões envolvidas e todos os deputados que eu vi chegarem a esta reunião e que não pertencem às três comissões envolvidas e pertencem a outras comissões. Muito obrigada aos senhores jornalistas.